plusieurs reprises lors de nos rencontres, nous avons une concertation de temps en temps entre prédicateurs. Eric nous a sensibilisés à l'importance d'annoncer une bonne nouvelle à chaque prédication. Et puis ensuite, il nous a proposé cette série que nous avons commencée sur le livre des juges. Cherchez où est la bonne nouvelle là-dedans. Merci Eric. Comme nous l'avons vu, le livre des juges peut être illustré par une spirale descendante qui est ici. Je vous la rappelle brièvement, on ne va pas passer trop de temps parce qu'on n'est pas en avance. Qui commence avec le péché, qui se poursuit par une forme d'oppression, une repentance des croyants du peuple d'Israël, la délivrance accordée par Dieu et la paix qui est rétablie avant qu'un nouveau cycle recommence. Et après Samson, dont le juge dont Michaël nous a parlé la semaine dernière et qui clôturait la liste des juges, le texte d'aujourd'hui semble être une sorte d'appendice décrivant l'état moral et spirituel d'Israël à cette époque qui, je vous le dis tout de suite, n'était pas brillant. Et donc, notre texte se déroule tout au long des chapitres 17 et 18 du livre des juges. C'est là que nous en sommes rendus. Et dans ce passage, par deux fois, il nous est rappelé qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Et cette remarque est intéressante en ce sens qu'elle invite le lecteur à se placer dans un contexte révolu à ses yeux. Tout laisse à penser que l'auteur du livre s'adresse à des lecteurs vivant en Israël sous le régime de la monarchie, peut-être du temps du roi David. C'est un peu comme si aujourd'hui on racontait une histoire des années 1500, de l'histoire de France, en rappelant qu'à l'époque, à cette époque, la démocratie n'était pas encore instaurée et que ça explique, voire excuse, certains comportements aujourd'hui jugés surprenants. Au chapitre 17, cette mention de l'absence de roi en Israël est doublée d'une précision. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien connu, sous le régime de la monarchie, personne ne peut faire tout ce qui lui semble bon dans tous les domaines. Certaines monarchies se sont même révélées au cours de l'histoire particulièrement appliquée à empêcher quiconque d'agir à sa convenance jusque dans les domaines les plus intimes, soit personnels ou familiaux. Et il n'est pas abusé de penser que cette mention « chacun faisait ce qui lui semblait bon » par cette mention, l'auteur a désiré justifier l'établissement de la monarchie en Israël, un peu comme un garde-fou, comme un moyen de ne pas arriver à cette état d'anarchie et de délabrement qui a caractérisé cette période. Expliquer et excuser un état de fait, justifier les moyens mis en œuvre depuis lors pour y remédier, c'est ce que nous faisons couramment dans de nombreux domaines, au boulot, en famille et en église également. Au fil des années et des circonstances, nous avons pris des dispositions qui permettait de faire face aux diverses situations qui se sont présentées et à les gérer. Ça ne signifie pas que ces dispositions sont idéales ni qu'elles sont gravées dans le marbre, mais on se souvient encore de ce que ça donnait quand on ne les appliquait pas. Et c'est encore peut-être ce qui les justifie aujourd'hui. Ou pas, car oui, parfois on traîne un héritage du passé, d'un passé révolu, qu'il peut être bon de remettre en question, et pour certaines choses, le discernement ne tombe pas tout cuit, il faut un long temps de réflexion, de confrontation, et au bout du processus, la soumission mutuelle à une disposition qui devient un bien commun dans l'étape dans laquelle nous avons à parcourir ensemble. Mais qu'y a-t-il donc dans le passage d'aujourd'hui de si surprenant, de si affligeant pour le lecteur, appartenant, comme on le disait, à une société ordonnés, hiérarchisés, pour qu'ils doivent être ainsi avertis. Nous allons le lire, et je vous propose de prendre donc Juges, chapitre 17, à partir du verset 1. « Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, appelé Micha, qui dit à sa mère, « Les 1000 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions, même à mes oreilles, eh bien cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit, « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des théraphimes et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Et c'est là qu'ils ont dit, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, certainement une précision de l'auteur apportée à un public qui pourrait être choqué. Et si vous êtes un juif fidèle de cette époque, enfin de l'époque du lecteur, vous avez de quoi être choqué. Voler sa mère, tout d'abord, puis finalement arranger le coup avec elle dans une espèce de marchandage débouchant sur la fabrication en partie, avec une partie de cet argent, d'une sculpture en idole de métal, soi-disant consacrée à Dieu, installer ces objets dans sa maison et considérer leur remplacement comme un lieu de culte. Mais encore, s'il y avait que ça, ce Mika, cet homme, établit un de ses fils comme prêtre. Un de ses fils, bien comme ça, toi, mon fils, sera prêtre. Et je pense qu'il faut sous-entendre prêtre de Dieu, hein, prêtre de l'Éternel, pas prêtre d'une petite divinité locale. Donc, passons un peu sur l'aspect institutionnel qui voulait que seul un descendant d'Aaron pouvait accéder à cette fonction. Ce qui frappe vraiment, c'est la légèreté avec laquelle ces dispositions sont prises. Les choses se déroulent. Tout semble plié en trois temps, trois mouvements. Une sculpture, une idole en métal, quelques objets cultuels, tout ça placé sur une petite table dans un lieu dédié et le tour est joué. Il ne manque plus qu'un prêtre pour officier et le fiston fera bien l'affaire. L'amalgame entre le culte hébraïque et le paganisme n'est pas nouvelle et va encore marquer longtemps la spiritualité du peuple juif. Mais le malaise est ici renforcé par la parodie de culte qui se met en place. On a les statues, on a le lieu, on a le prêtre, on a tout. Le décorum, les symboles, les signes extérieurs. Vous voyez où je veux en venir? On a l'association cultuelle, on a le bâtiment, on a le pasteur, et mieux que ça, les pasteurs. Nous aussi, on a tout ce qu'il faut. Pourtant, nous savons très bien que c'est pas cela qui fait de nous une église. Tout ceci pourrait nous être tiré. Et c'est le cas pour de nombreux chrétiens. On vient de prier pour des chrétiens à qui tout cela est retiré, sans qu'ils cessent d'être l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Seul le fait de nous réunir en son nom et seule sa présence parmi nous fait de nous son église. Et merci Seigneur de nous accorder en plus, dans ta grande bonté, l'association culturelle. Il nous permet d'être reconnus comme tels dans la société, d'avoir pignon sur rue pour ce bâtiment qui élargit considérablement les possibilités de te faire connaître aux hommes et aux femmes de notre temps. Merci pour nos pasteurs animés d'une vision et d'une vraie vocation, bien formés, consacrés à toi et à ceux que tu leur as confiés. Une parole de l'évangéliste Jean résume très bien tout ceci. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pour ceux parmi nous qui ne partageraient pas notre foi, notre croyance, mais qui seraient néanmoins en recherche de Dieu, en recherche d'une pratique cultuelle authentique et conforme à la parole de Dieu. Je prie vraiment, ma prière est vraiment que chacun de vous puisse le rencontrer en esprit et en vérité, au milieu de ceux qui l'adorent, qui désirent l'adorer en esprit et en vérité. Mais revenons à notre texte. Nous l'avions laissé au verset 6 par cet avertissement. À cette époque, il n'y avait pas droit en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et lisons la suite. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la ville de Bethléem dans Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Mica, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mica lui demanda : « D'où viens-tu ? » Il lui répondit : « Je suis lévite de Bethléem en Juda et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. » Mica lui propose : « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, les vêtements dont tu auras besoin ainsi que la nourriture. » Le lévite entra chez Mica, il se décida ainsi à rester chez cet homme qui le considéra comme un de ses fils. Mica établit le lévite dans ses fonctions et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Mica dit alors : « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Consternation. Une suite qui ne fait que renforcer nos craintes au sujet de l'authenticité de la pratique cultuelle de Mica. Et en plus, un lévite de passage qui est prêt à s'établir là où on l'accueillera, quelle aubaine. On ne peut pas laisser passer une telle occasion. Vous vous rendez compte, un lévite, ici, là, en pleine montagne d'Éphraïm. En Israël, seuls les descendants, pourquoi on met l'accent sur ce lévite, parce que seuls les descendants d'Aaron et lui-même descendant de Lévi ont accès à la prêtrise. Donc, et on découvre là que Mica savait bien que son fils ne pouvait pas être prêtre, prétendre tenir lieu de prêtre. Mais bon, il avait fait avec, à défaut de mieux jusque-là. Mais là, il est content, c'est une vraie Rolex maintenant qu'il a au poignet, c'est plus une contrefaçon. Il croit avoir gagné en authenticité avec ce lévite, mais le dernier verset éclaire au grand jour ses motivations et surtout la nature de sa relation avec Dieu. Il lui fallait un porte-bonheur. Il fallait quelqu'un qui ait une sorte de, peut-être de talisman, je ne sais pas, hein, quelque chose qui puisse être une source de bénédiction de Dieu. Parce qu'il entretient avec Dieu une relation donnant-donnant. Je prends un vrai lévite pour demeurer chez moi, afin qu'il me serve de prêtre, et tu me béniras en retour. Quelques mots quand même sur le lévite, sur lequel il y a aussi de quoi s'interroger. Premièrement, il ne semble pas quand même animé d'une vision de service très aiguisée, plutôt d'un désir de faire son trou quelque part. Mais il nous est dit qu'il est jeune, et ce qui peut expliquer qu'il n'a pas une idée très précise de ce à quoi Dieu l'appelle. Plus troublant quand même, ce contrat passé avec Mica en espèces sonnantes et trébuchantes. Je ne suis pas très au clair sur la manière avec laquelle les lévites, les prêtres étaient rémunérés, mais j'ai quand même un gros doute sur la nature privée d'un tel contrat. Il me semble que l'exercice de la prêtrise est quelque chose de public. Tout comme d'ailleurs la nature privée du ministère qui lui est confié. Un lévite, pour moi tout seul et pour ma famille. Un pasteur, pour moi tout seul et pour ma famille. Mais le plus troublant de la part d'un lévite, c'est qu'il accepte d'exercer la prêtrise d'un culte rendu à Dieu, mais ayant toutes les apparences d'un culte païen. On ne peut pas dire que les choses sont masquées. Preuve quand même que la déchéance touchait toutes les strates d'Israël. Reprenons notre souffle. Et avant avec le verset 1 du chapitre 18. À cette époque, il n'y avait pas droit en Israël. Hein. Deuxième rappel de cet avertissement. Attention, à cette époque, pour le lecteur qui vit probablement sous la monarchie, sans doute celle de David, à cette époque, il n'y avait pas droit en Israël. La tribu des Danites cherchait un territoire où s'installer, car jusque-là, elle n'avait pas reçu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les Danites, c'est la tribu de Dan, bien sûr, hein, des 12 tribus d'Israël. Les Danites choisirent parmi eux, dans leur clan, 5 hommes vaillants. Ils envoyèrent de Tsoréa et d'Estaol pour explorer et examiner le pays. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ces hommes arrivèrent jusque vers la maison de Mica, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et ils y passèrent la nuit. Une fois près de la maison de Mica, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans cet endroit? Qu'est-ce qui te retient ici ?» Il leur répondit, « Mica fait pour moi différentes choses. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Les hommes dirent, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites se déroule sous le regard de l'Éternel. » Voilà. Grand chose à dire sur ce passage, mais si ce n'est qu'il renforce quand même nos impressions sur ce jeune Lévite, dont on ne connaît pas le nom, hein, vous l'aurez remarqué, son nom ne nous est pas donné, mais qui semble connu de ces 5 hommes hein, venus explorer le pays. Voilà. Il exerce sans grande conviction, il le dit plus ou moins lui-même, ça transparaît dans ses paroles, un ministère d'ordre privé en échange d'un salaire, des davantages en nature, le gîte, le couvert, comme c'était convenu avec Mica. Alors, on relève tout de même la surprise hein, de la part des 5 explorateurs de trouver un Lévite en ce lieu et chez un particulier. Et la suite va nous montrer comment ils vont le reprendre à leur compte. Donc, nous sautons quelques versets en rapport avec la suite de leur exploration du pays. Et nous les retrouvons chez Mica, en retour de cette mission d'exploration, où ils sont rejoints, là, chez Mica, par 600 guerriers de leur tribu de Dan, en prévision de mener la conquête d'un territoire. Et donc, nous sautons au verset 14. Alors, les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs, là, le pays qu'ils sont allés explorer, prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphimes, une sculpture sacrée et une idole en métal fondu ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mica, et lui demandèrent comment il se portait. Pas mal, merci. Les 600 Danites, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison. Ils prirent la sculpture sacrée, les phodes, les téraphimes et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre se trouvait à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mica et qu'ils eurent pris la sculpture sacrée, les phodes, les téraphimes et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme ou à toute une tribu d'Israël ou à toute une tribu et un clan et tout un clan d'Israël ?» Le prêtre en fut tout réjoui. Dans son cœur, il prit les phodes, les téraphimes et la sculpture sacrée et se joignit à la troupe. Après l'information qui est donnée par les 5 explorateurs, information ou dénonciation, hein, on pouvait, sur la présence d'un lieu de culte chez Mica, on pouvait peut-être enfin espérer avoir affaire à des juifs fidèles, parmi les 600 peut-être, il y en a un, qui mettent un terme, qui s'élèvent contre cette parodie de culte et fassent la leçon à Micah, comme évidemment aux Lévites. Mais pas du tout. Pas du tout. Il ne se trouve dans cette histoire pas une seule personne qui manifeste un réveil en sursaut, qui réalise la vanité de la situation et se ressaisisse. La nature et la présence de cette histoire ne sont probablement qu'un exemple pour nous décrire ce qui se passe partout en Israël et à quel point le pays en est rendu. Nous ajoutons à tout ce que nous avons vu l'usage de l'intimidation ici, de la ruse envers un frère, en l'occurrence Mika, et du vol, bien sûr, pour lui dérober tout ce qu'il considère comme, ce qu'ils considèrent tous, pardon, comme un trésor, ces objets de culte illégitimes. Et pour finir, couronner le tout, le Lévite finit par se vendre au plus offrant. Pensez-vous, passer de l'exercice d'un culte privé, comme ça, un trou perdu, à celui de toute une tribu, vous imaginez la promotion. Ça vaut bien une petite trahison envers son premier bienfaiteur. Et le voilà qui se charge de tout son petit matériel et accompagne tout joyeux ces hommes dans leur conquête d'un territoire. Et dans les lignes suivantes, nous voyons Mika se rendre compte du vol de ces objets et tenter de les récupérer en poursuivant la troupe, mais il doit y renoncer devant la force de leur nombre, et retourner chez lui. Adieu la statuette, adieu les théraphimes, adieu l'éphod, adieu ce prêtre qui était censé m'assurer la bénédiction de Dieu. Cette triste histoire nous interpelle sur ce que nous attendons de Dieu, de son Église et de ses serviteurs. Ce que nous attendons de Dieu, il y a de quoi s'interroger. Sur la base de la déclaration de Mika, l'Éternel me bénira parce que j'ai pris ce prêtre à mon service. Ça me rappelle que ce que dit Paul aux Corinthiens, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Qu'est-ce que Dieu nous doit ? Nous doit au sens de la dette, hein, quelle dette Dieu aurait envers nous. Est-ce que Dieu est-il à notre service? Alors dit comme ça, non, bien sûr, hein, on s'insurgerait contre une telle déclaration qui consiste à dire et à penser que Dieu est à notre service, mais quand même, ne sommes-nous jamais tentés de nous servir de Dieu? Sommes toujours si sûrs que cela de nos motivations profondes, notre relation avec Dieu est-elle toujours affranchie du donnant-donnant? Et c'est une question, je vous l'avoue, qui me hante assez souvent. Concernant l'Église de Dieu et ses serviteurs, qu'en attendons-nous? Nous voyons dans ce récit des juges comment un homme, Mika, puis toute une troupe, instrumentalise ce Lévite à ce qu'ils croient être leur avantage, un avantage dérisoire, illusoire. L'actualité internationale de ces derniers mois illustre que cette pratique a toujours cours dans une version moderne. L'appui des autorités spirituelles est recherché pour justifier le pire, et on le voit en divers points chauds de la planète. Bien sûr, en tant que simple croyants, membres d'Église, nous sommes bien loin de ces choses, mais interrogeons-nous. Attendons-nous de l'Église qu'elle nous livre un culte tiré au cordeau chaque dimanche matin, tel un steak servi à point? Considérons-nous nos pasteurs comme des prestataires, en particulier à l'occasion des mariages de nos jeunes, des obsèques de nos morts? Estimons-nous que nos responsables de groupes de maison nous doivent un accueil chaleureux dans une maison propre et bien chauffée, ainsi qu'une animation efficace et édifiante de nos rencontres. À un moment, il faut savoir dire stop, et c'est ce qui manque dans cette histoire. Quel saint ? Quelqu'un qui sait dire stop. Quelqu'un qui dit stop. Il serait difficile, bien sûr, de jeter la pierre, parce qu'on ne sait pas quel est le niveau de conscience de chacun des protagonistes. Et de fait, il ne semble pas très affûté, mais supposons un instant qu'une de ces personnes se lève pour dire quelque chose ne va pas. On déraille. Et on pense bien sûr au premier Lévite, mais bien sûr, il est jeune. Il ne tient sa vocation que du fait de sa descendance. Et il n'a certainement jamais mis les pieds à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Bref, qui que ce soit dans ce contexte, comment aurait-il été accueilli s'il avait osé s'élever contre l'indignité manifeste de tout ce qui se passe ici? Et encore, on n'a pas tout lu. On n'avait pas le temps de tout lire. Mais toute une autre partie du chapitre 18 décrit comment les guerriers de Dan s'en prennent lâchement à une cité paisible et sans défense pour s'y établir et ériger la fameuse statuette sacrée fabriquée par Mika, toujours sous la caution des autorités spirituelles, parmi lesquelles le petit-fils de Moïse lui-même. Sommes-nous prêts à nous laisser enseigner et reprendre par le ministère de l'Église? Et je parle du ministère au sens large, pas seulement celui de nos responsables. Je parle du ministère que nous avons les uns envers les autres, à divers degrés de responsabilité. Nous avions pour mission de chercher, je vous rappelle, une bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle dans ce passage? Nous sommes partis d'un constat. À cette époque, il n'y avait pas droit en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La bonne nouvelle serait-elle, par hasard, que, enfin, Israël a fini par avoir un roi? Pas tout à fait. Alors oui, c'est vrai, la royauté a instauré, quelque temps plus tard, a permis d'organiser, de hiérarchiser la société juive, de sortir de ce « chacun faisait ce qui lui semblait bon » pour donner à la contribution de chacun une direction commune. Et en ce sens, les choses se sont améliorées. Mais que je sache, si les pratiques païennes ont disparu avec le règne des premiers rois d'Israël, elles sont revenues de plus belle par la suite, et parfois même à l'instigation de certains rois. La vraie bonne nouvelle, en tout cas moi celle que je vois, qui n'a pas été reçue comme telle, c'est qu'il y avait déjà un roi. Dieu lui-même. Mais cela demandait de lui faire confiance et de ne pas craindre la différence avec les nations environnantes. La vraie bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons un roi et c'est Dieu lui-même. Nous l'avons chanté, notre Dieu règne. Matin, nous l'avons chanté, on a mis tout notre cœur à chanter notre Dieu règne. La vraie bonne nouvelle, c'est que nous avons un prêtre. En Jésus-Christ, nous avons un prêtre parfait. Il ne s'est jamais compromis, bien qu'il ait partagé notre humanité. Et en plus, fort de cette humanité qu'il a partagée, qui peut compatir à nos faiblesses. Bonne nouvelle pour aujourd'hui. Chacun de nous peut faire mieux que ce qui lui semble bon. Mieux encore que ce qui semblerait bon à un roi, même éclairé. Fabrice a cité le roi David qui disait se confier en Dieu. Ben mieux encore que cela, chacun de nous peut faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. La vraie bonne nouvelle, elle est résumée en ces mots par Paul aux Philippiens. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Je vous laisse avec cette réflexion Et je vous invite, j'invite les musiciens à revenir pour rechanter le chant que nous avons entonné tout à l'heure, « Notre Dieu règne ».